Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
C'est la première émission de la saison spéciale rentrée scolaire et ce matin nous parlons nutrition et notamment de l'alimentation alimentaire de nos enfants. Bonne ou mauvaise habitude, elles s'acquièrent dès le plus jeune âge et elles ont des conséquences directes sur la santé. Pour rappel, en France, 17% des enfants sont en surpoids. Apprendre à bien manger à son enfant est tout à fait compatible avec lui faire plaisir. Alors il est très important d'avoir de bonnes habitudes alimentaires pour soi, mais surtout pour ses enfants. Certains aliments doivent être consommés de façon privilégiée, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, la viande et le poisson, les œufs, les produits laitiers et d'autres en plus petite quantité, comme les produits ultra transformés qui contiennent trop de sucre, trop de sel, trop de gras et surtout éviter les sodas. Les enfants scolarisés mangent aussi souvent à la cantine le midi. Aujourd'hui, beaucoup de cantines scolaires proposent des plats plus équilibrés qui privilégient les produits frais. C'est ce dont nous allons parler ce matin avec nos invités. D'abord, sur le plateau de la radio africaine, le docteur Dominique Cassuto. Merci de nous rejoindre.
Bonjour.
À cette rentrée, vous êtes endocrinologue, vous êtes nutritionniste, spécialiste de la nutrition des enfants à Paris. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont dernièrement un abécédaire intitulé « Qu'est-ce qu'on mange ?» L'alimentation des ados de A à Z, c'est paru aux éditions Odile Jacob. On reparlera tout à l'heure. Et au téléphone avec nous, Laura Ovide. Merci de nous rejoindre, Laura Ovide. Vous êtes diététicienne, vous êtes nutritionniste en centre de santé, référente de l'expérimentation de prévention de l'obésité infantile sur la ville de Saint-Denis. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors on va commencer cette émission avec un petit micro-trottoir puisque nous avons posé la question sur l'alimentation de leurs propres enfants à des personnes dans les rues de la capitale. On écoute leur réponse et on se retrouve juste après.
Oui, je trouve que mon fils a une alimentation équilibrée parce qu'il mange de tout. Du poisson, il mange de la viande, il mange des légumes, il mange des protéines. Donc pour moi, ça relève d'une alimentation équilibrée.
Jusqu'à ses 6 mois, il mangeait, il n'y avait pas de problème. Il mangeait des légumes, des fruits, enfin bref, top. Mais une fois que ses dents, elles ont percé, il n'a plus voulu manger de purée, plus voulu manger de légumes. Enfin bref, c'est toute une histoire. Les fruits, il n'y a pas de problème, donc il mange bien les fruits. Mais les légumes, c'est pas ça. La viande, il aime pas. Le poulet, il aime pas. Bon, bref, un végétarien.
Je pense que mes enfants ont une alimentation relativement équilibrée. On pourrait dire qu'il n'y a peut-être pas assez de légumes.
On essaie de lui faire goûter un peu à tout. Fruits, légumes, viande rouge, blanche, poisson.
Il mange équilibré à midi parce qu'il mange à la cantine. Mais après, le soir, non, je me débrouille comme je peux, comme je travaille. C'est pas forcément des légumes.
Ça dépend des périodes, en fait. Il y a des moments où on va lui faire manger tout, etc. Après, c'est vrai qu'en général, il mange qu'on mange. C'est souvent la même chose, en fait.
J'essaye de m'arranger. Je fais genre des gratins. En fait, je cache les légumes, quoi. Je démixe et tout ça. Et comme ça, après, ça passe plus facilement dans le plat sans qu'il se rende compte vraiment que c'est des courgettes que j'ai mis ou voilà, un autre légume.
Équilibré, pas forcément, parce qu'il y a aussi à la maison. De notre culture africaine, c'est vrai qu'on mange des légumes, mais c'est souvent plein en sauce.
J'essaye pour mon fils de surveiller son alimentation, c'est-à-dire qu'il ait souvent des légumes et puis de la viande blanche. Il a des difficultés parfois à manger certains légumes, donc voilà, on trouve un moyen pour que ça soit épicé, qu'il y ait du goût, pas de sauce, mais on fait au mieux.
Alors, docteur Dominique Cassuto, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce micro-trottoir. On va y revenir point par point tout au long de cette émission. Alors, tout d'abord, ce qu'il est important de garder à l'esprit pour les parents qui nous écoutent ce matin, c'est qu'un bon équilibre alimentaire s'acquiert dès le plus jeune âge.
Oui, oui, bien sûr, ça s'acquiert depuis le plus jeune âge et c'est très exemplaire, hein, ce micro-trottoir, parce qu'il y avait tout, en fait, dedans. La première chose que je dis souvent aux parents, parce que je vois beaucoup de familles, c'est vous êtes le premier modèle de vos enfants. C'est-à-dire que ça, c'est très important. S'il ne vous voit pas manger des légumes, il n'en mangera pas. Ça, c'est déjà clair. La deuxième chose, c'est par rapport à l'aversion aux légumes, hein, c'est-à-dire par rapport au rejet des légumes. Tous les enfants passent par cette période. Il y a une période un petit peu compliquée. C'est ce qu'on appelle, là, c'était très intéressant, de la maman qui disait avant, il mangeait tout, puis maintenant, il refuse. Il y a ce qu'on appelle la néophobie alimentaire.
Deux et cinq ans, à peu près.
Alors, ça commence à un an et demi, deux ans, et puis ça peut rester une journée, comme ça peut rester 8 ans, jusqu'à 7-8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le goût enfantin. Et ça, c'est quelque chose, c'est à l'époque à l'époque où l'enfant commence à s'inquiéter de ce qu'il incorpore. En fait, c'est complètement un épisode psychologique normal, hein, c'est-à-dire que finalement, au début, tout ce que lui donnait la maman ou l'équivalent maternel, enfin bon, il prenait, puis tout d'un coup, il se rend compte que finalement, il incorpore quelque chose. Donc, du coup, il va manger des aliments qui le rassurent. Et qu'est-ce qui rassure un enfant ?
Le sucre.
Non, pas forcément le sucre. Ce qui rassure l'enfant, c'est les aliments avec lesquels, quand il a mangé, après, il se sent bien. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut aller jouer et qu'il... Donc, c'est plutôt les pâtes, les riz, frites, les choses... Non, c'est pas forcément des aliments. Non, je crois que c'est des aliments qui, pour lui, sont des aliments rassurants. Et donc, du coup, notre rôle d'éducateur, parents, école, tout ce qu'on veut, c'est de présenter ces aliments et ce qu'on appelle la néphobie, c'est-à-dire qu'on peut des fois représenter 7-8 fois. Ce qui se passe souvent, c'est que les parents démissionnent très vite et disent « bon, ben, il n'aime pas les légumes, donc j'en fais pas
».
La personne qui disait « je les camoufle », c'est très bien, parce qu'on sait que pour manger des choux-fleurs, si on le fait en gratin, c'est plus facile qu'en salade ou comme ça. Et puis les choux-fleurs, ça sent pas bon. Donc, les enfants, ils rejettent ça. Enfin bon, surtout pour les ados, ça, c'est très important, les odeurs. Donc, voilà.
Est-ce qu'on doit les forcer ?
Alors, est-ce qu'on doit les forcer ? La phrase qu'on connaît bien, c'est « tu goûtes et puis si t'aimes pas, tu verras ». Mais alors, on sait que, par exemple, pour les enfants qui sont très, très fixés, qui sont très néophobes, hein, qui ont vraiment du mal, des fois, il faut présenter 7-8 fois. Hein. Et puis, des fois, ils vont vous dire « j'ai mangé des épinards à l'école et puis ils n'en ont pas mangé à la maison. Pourquoi ? Parce que... »
Des fois, chez mamie ou...
Voilà, c'est ça. D'abord, parce que c'est très important de pouvoir s'opposer à ses parents dès le plus jeune âge, hein, de montrer qu'on existe et qu'on est une personne et qu'on a ses goûts propres. Donc, ça, c'est très important par rapport aux frères et sœurs.
Ouais.
Et puis aussi qu'on a ce côté, les pères PIRS, hein, c'est-à-dire les copains, ils mangent des épinards ou ils mangent du chou-fleur, moi aussi je vais en manger, enfin voilà. Et c'est comme ça que ça se... Donc la levée de la néophobie peut... Alors, il faut représenter six, sept fois un aliment. Alors, il ne faut pas dire, par exemple, on va représenter un peu des carottes, puis les carottes, peut-être que tu les aimes cuites et pas crues, et puis voilà. Et il faut absolument... Alors, toutes les études, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui montrent ça, c'est d'être forcé un enfant, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quand on est trop rigide, il faut que les parents soient démocratiques dans le sens de démocratique, c'est-à-dire intégrer la règle, savoir qu'il faut manger des légumes, savoir qu'il faut manger sainement, assis à table, avec des couverts tranquilles, dans le portable, mettre le portable même pour la famille. Enfin, il y a des règles à la maison. Mais on peut négocier, c'est-à-dire qu'on mange tous les jours à table, pas devant la télé, puis le vendredi soir, on se fait une soirée pizza devant la télé. C'est-à-dire ça, c'est la démocratie, c'est-à-dire la démocratie familiale. Les parents, on sait que les parents trop rigides, c'est-à-dire qu'ils forcent, genre, et qui disent, par exemple, si tu finis tes légumes, tu auras ton dessert, favoriser le dessert, les desserts vont être super valorisés, et puis ceux qui interdisent des trucs, et puis ceux qui sont trop négligents aussi. Donc, il faut un milieu, l'éducation alimentaire de type démocratique, comme tout, hein, c'est pour le sommeil pareil, c'est pour la télé pareil, pour le portable pareil, voilà. La démocratie, c'est toujours mieux.
Alors, justement, la diversité, la diversification de l'alimentation, elle commence très, très tôt, hein, normalement. Et on dit qu'un enfant aura plus de chances de conserver de bonnes habitudes alimentaires si on lui a présenté diversité d'aliments dès son plus jeune âge.
Alors, c'est des études très intéressantes qui ont été faites, notamment à Dijon. Hein. À Dijon, il y a un grand centre de recherche sur l'alimentation des nourrissons, des enfants, etc., où j'avais participé à certaines études. Plus la diversification se fait tôt... Alors, ça change tout le temps. Hein. Est-ce que c'est à 3 mois ? Est-ce que c'est à 4 mois ? Est-ce que c'est à 6 mois ? Alors, je ne sais pas où ça en est parce que je fais plus du tout des nourrissons. Mais bon, enfin bref, il faut suivre votre pédiatre. Le pédiatre, il dit quelque chose, il faut suivre. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais en tous les cas, on sait que les enfants qui ont une diversification et qui très tôt, après, il va avoir cette période de néophobie. Il y a une ouverture à 8-10 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, vous savez que les classes de goût, toute l'éducation alimentaire qui se fait avec les classes de goût et puis toutes les expériences qu'on peut faire, ça peut se faire qu'à partir de 7-8 ans parce que c'est assez fixé quand même. Il ne faut pas s'inquiéter qu'un enfant n'aime manger que du poulet, des pâtes et des beefsteaks hachés. C'est des aliments qui les rassurent, ils sont bien avec. Alors, évidemment, ce que je disais, c'est qu'il faut participer et que... Bon, à 7, 8, 9 ans, 10 ans, avant l'adolescence, il y a vraiment une ouverture et c'est à ce moment-là où il faut les emmener au marché, il faut leur montrer, il faut leur montrer la culture. Ils sont très curieux, c'est un âge où ils sont curieux. Alors,
cuisiner peut... avec eux.
Absolument. Et ça, ce qui est très, très important, c'est ça. Moi je suis vraiment partisane de l'éducation sensorielle plutôt que l'éducation fonctionnelle, alimentaire du genre il faut manger des légumes, il faut manger des glucides, des lipides, des protéines. On ne mange pas des glucides, des lipides, des protéines, on mange des aliments. Il faut savoir, il y a plein plein d'études qui ont montré que quand on explique aux enfants d'où vient le pain, le poisson, c'est pas un carré frit. Hein, voilà, montrer, et les enfants comprennent, ils sont, alors, pas tout petits, mais à 7, 8,
et
9
ben,
ans.
Et faire un rejet, par exemple, par rapport à la viande, savoir alors, que c'est un, alors, c'est
le,
un animal.
Le rejet, voilà. Alors, ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'enfants qui, en entendant, en voyant des documentaires absolument monstrueux sur la viande, les machins, qui... et puis il y a cette, c'est vrai, c'est pas une mode, c'est une... un courant hein, ouais. Du végétarisme. Attention aux véganes, hein, pas de végane chez les enfants. Bon, on peut très bien élever ses enfants avec du végétarisme si on arrive à avoir les équivalences, on peut se faire aider. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui viennent avec des garçons, alors qu'avant c'était beaucoup les filles, ouais. Qui ne veulent plus manger de viande rouge ou plus de viande du tout. Et donc, du coup, je les aide avec des équivalences et tout. Donc, maintenant, c'est assez courant d'avoir des produits type tofu, type légumineuses, hein, tout ça. Puis c'est très, très bon pour la santé. Dans le documentaire, il y avait aussi quelque chose autour des produits ultra transformés, des choses qui sont industrielles. Hein. Au maximum à la maison, il faut manger des choses simples. Ouais. Quand on dit il y a trop de sucre dans les produits transformés, c'est pas qu'il y a trop de sucre, c'est que la façon dont c'est fabriqué nécessite de façon pour la conservation, etc., etc. Donc, du coup, les produits industriels, hein, y a maintenant des nouveaux articles qui montrent que ce n'est pas tellement la quantité de sucre ou de gras, tout ça, c'est surtout la façon dont c'est fait, hein, ouais. L'effet matrice avec les produits industriels. Donc, moins on aura de produits transformés, parce qu'on ne sait pas si c'est les ingrédients ou tout ce qu'on met comme additif ou tout ce qui se fait quand on trafique un aliment, qu'est-ce qu'en sont les produits néoformés qui arrivent, etc. Donc, il y a plein de choses très, très nouvelles hein, qui arrivent. Je ne suis pas à fond pour le bio, mais c'est vrai que c'est plutôt bien d'avoir des aliments simples.
Alors justement, le fait de les éduquer, d'être là, d'insister sur l'alimentation en leur mettant peut-être pour certains parents une forme de pression, est-ce que ça ne va pas créer des dysfonctionnements un peu plus tard?
Absolument,
comme,
absolument. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que les enfants comprennent que il y a le quotidien puis l'exceptionnel, que il y a les rituels. Ritualiser, c'est très important la ritualisation. Comme je disais, on peut dire tous les vendredis soirs avec la famille, on se fait une soirée pizza devant la télé avec un plateau télé, alors que d'habitude on ça c'est intéressant. Bon, alors moi j'ai mis cet exemple là, mais ça peut être un autre. On va au McDo une fois par mois, enfin j'en sais rien.
On se fait plaisir en famille.
Oui, voilà. Les enfants sont très, 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 très. Ils aiment beaucoup là, les rituels. Hein, les rituels. Surtout, je pense souvent aux parents séparés. La ritualisation avec l'un et l'autre, la recette de papa, recette de maman, les grands-parents. Les grands-parents ont vraiment pour la transmission de la culture culinaire, etc. En parlant de culture culinaire, on disait que souvent les recettes africaines sont un petit peu trop grasse, on peut les adapter.
C'est juste un plat principal, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, donc du coup...
Oui, il faut apprendre peut-être aux enfants à manger dans une petite assiette et puis à voir s'ils ont encore faim de se resservir, par exemple, et de ne pas leur mettre une grosse assiette pour qu'ils s'habituent au gros volume, par exemple, et puis voilà.
Alors, on va retrouver au téléphone Samira avant d'entendre Laura Ovid qui est avec nous au téléphone. Samira, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous vouliez témoigner. Bonjour. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour. Juste avant, je suis désolée, je souriais parce que quand vous parliez de rituel, j'en ai un justement depuis que mes enfants, on va dire, depuis un an de mes enfants à peu près. Je rappelle que mes enfants sont en bas âge. Et mon rituel est assez, je sais pas, ça peut peut-être faire sourire quelques-uns, mais alors mes enfants mangent ce qu'ils veulent, on va dire à midi, pas ce qu'ils veulent vraiment, que ce soit des pâtes, ils me demandent des choses un peu plus lourdes et tout ça à midi, mais par contre le soir, c'est toujours soupe ou purée de légumes, soupe, purée de légumes, il faut vraiment, ça c'est un petit rituel que je fais depuis longtemps, ils le savent. Et parce que pour moi c'est extrêmement important déjà, parce que passé une certaine heure, on peut pas forcément manger lourd, et surtout encore plus pour des enfants. Les faire manger léger le soir, c'est extrêmement important, que ce soit pour la digestion, pour être en bonne santé. Et franchement, l'alimentation est extrêmement importante pour moi. C'est vraiment une chose primordiale. Je sais que mes enfants, s'ils mangent bien, sont en bonne santé. Et s'ils sont en bonne santé, je serai bien. Donc, je veille tout le temps à ce qu'ils mangent bien.
Est-ce que vous avez envie de dire à cette auditrice, docteur ?
Bah, c'est un rituel comme un autre, c'est très bien. Les enfants s'en rappelleront que le soir, ils mangeaient chez vous des légumes le soir sous forme de purée ou de soupe. C'est toutes les façons. Il y a plein de gens, moi je vois en cabinet, qui me disaient chez ma mère, chez mes parents, bah, tous les soirs c'était comme ça. Il y a 50 ans, on mangeait pas très léger le soir. Hein,
est-ce qu'ils ne risquent pas de tomber dans une routine alimentaire?
Non, non, d'abord il y a les légumes de saison.
Ah, j'ai fait des petits excès. Hein.
Voilà, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Elle a intégré une règle, dans la famille il y a une règle, bon, le midi effectivement... Alors, il y avait quelque chose dans le documentaire qui m'a aussi interpellée. C'est une maman qui disait, à la midi, je sais qu'ils mangent équilibré à la cantine, mais est-ce qu'elle a vraiment posé la question aux enfants? Est-ce qu'ils mangent tout ce qu'on leur donne? Parce que combien de fois, ils m'amènent les menus de la cantine et en fait, les enfants, devant moi, alors qu'ils n'en ont jamais parlé, disent, mais moi, de toute façon, je ne mange jamais, je ne mange rien à la cantine. Donc, j'ai très faim à 4 heures. Et donc, du coup, je prends un gros goûter. Donc, du coup, je n'ai pas faim à dîner, etc. Donc, du coup, la prise de poids, elle peut être due pas du tout parce que l'enfant mange mal à la maison, c'est juste que parce que les parents payent la cantine pour rien. Donc ça, c'est bon, je pense que l'autre
on va y revenir dans un instant. Revenir. Merci en tout cas pour votre appel, Samira.
J'ai juste un petit conseil à donner.
Allez-y rapidement.
Si vous me permettez.
Oui, allez-y.
Franchement, je vois souvent des mamans qui lâchent l'affaire, si on peut dire ça comme ça, avec leurs enfants qui disent, bah, tant pis, il aime pas les légumes, et tant pis, bah, je vais lui donner ce qu'il aime. Non, je suis désolée. Tant qu'ils sont petits, on se doit d'insister. On se doit de faire le mieux pour eux. Parce que quand ils sont petits, c'est là qu'ils prennent des bonnes habitudes et les prendront pour plus tard. Donc, moi, je joue avec mes enfants. Je leur dis que, par exemple, ils aimaient pas les avocats. Je leur dis, mais tu sais, tu vas avoir des super cheveux de princesse. Tu vas être grande. Tu vas avoir de beaux cheveux. Parce que oui, c'est vrai, dans la vraie vie, on a des super beaux cheveux quand on mange des avocats. Donc, je ne mens pas. Et en même temps, j'essaye de les motiver, j'essaye de les encourager. Donc pour toutes les mamans, il faut vraiment pas désespérer, il faut continuer, il faut pas essayer une fois, il faut essayer plusieurs fois. Donc
merci,
l'enfant va vous tester.
Merci, donc, voilà. Merci pour tous ces conseils, Samira. Merci beaucoup.
Moi.
Conseil, conseil de bon sens. Merci Laura. Ovid, on va vous entendre à présent. Hein. On rappelle donc que vous êtes référente de l'expérimentation de prévention de l'obésité infantile sur la ville de Saint-Denis. Lorsque l'on sait que 17% des enfants sont en surpoids en France, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un petit peu votre travail, Laura ?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai plusieurs missions. Je suis diététicienne sur la ville de Saint-Denis. J'ai des consultations sur tous les centres de santé de la ville, dont une journée consacrée à cette expérimentation « Mission retrouve ton cap ». Voilà, je vous en redirai peut-être deux mots un petit peu plus tard. Et puis, une autre partie de mon travail consiste à faire des actions de prévention auprès des enfants et de leurs parents, alors soit dans les écoles, soit dans les maisons de quartier, dans les associations, dans les PMI, les deux vont ensemble, on a besoin de soins pour les enfants qui ont besoin d'attention plus particulière de façon individuelle et puis de consacrer du temps à l'éducation au goût, à l'éducation nutritionnelle, on doit les partager entre ces deux missions-là.
Alors justement, on parlait tout à l'heure des repas en milieu scolaire. Il y a eu beaucoup on a beaucoup parlé de cela ces dernières années. Il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises. On dit qu'aujourd'hui, le service est très encadré en matière d'apport alimentaire et nutritionnel. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas, docteur, en quelques mots ?
Dans les écoles ?
Oui, dans les écoles.
Ah bah oui, il y a des directives, c'est pas des lois, hein, il y a des directives, donc logiquement ils sont obligés de les soutenir. J'avoue, je suis plus trop dans le sujet. Je sais qu'il y a des directives et qui sont, bah, après sur le terrain, je ne peux raconter, témoigner de ce que me racontent les enfants quand je les vois et qui sont effectivement des enfants surpoids et qui disent c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que c'est bon ton de dire que c'est pas bon? Souvent ils se montent le bourrichon tous et puis que voilà, tout d'un coup. Mais c'est vrai que bon, pour avoir eu des enfants, souvent les viandes, quand c'est la liaison froide ou chaude, je sais pas comment ça se passe, ça c'était réchauffé, c'est déjà des morceaux prédécoupés, c'est pas très joli à regarder, etc. Enfin bon, il y a peut-être des efforts qui sont faits, j'imagine. Alors, que dans certains endroits, il y a des efforts.
Alors, c'est le cas à Saint-Denis, hein, puisque nous avons interrogé Perrine Rambaud. Elle est diététicienne à la cuisine centrale scolaire de Saint-Denis. On l'écoute, on se retrouve juste après.
La mairie a souhaité avoir sa propre cuisine centrale, garder vraiment la production en interne. C'est vraiment une volonté forte d'assurer une restauration de qualité pour les enfants des écoles primaires et pour les personnes âgées. Concernant les élémentaires, nous avons décidé de maintenir les 5 composantes, mais en faisant des portions adaptées, en donnant le choix aux enfants, afin qu'ils puissent se servir soit petite faim, soit grande faim. Donc typiquement, en passage au self, ça incite un peu plus les enfants à goûter. Saint-Denis a fait le choix d'essayer d'avoir un maximum de qualitatif. Donc ça passe par le bio, mais ça passe aussi par des produits labellisés, puisque par exemple nos volailles sont label rouge, on travaille de plus en plus avec des produits bleu-blanc-cœur qui concernent la viande, du poisson pêche durable. On ne veut pas chambouler les habitudes alimentaires des enfants, mais les habitudes alimentaires, voilà, ça ne dépend pas que de la cantine, ça dépend de la maison, de la culture de chacun. Donc c'est pour ça que y a certains plats, certains légumes que les enfants n'apprécient pas, mais on essaye d'en mettre régulièrement. On essaye de les agrémenter différemment. On pense aux courgettes de temps en temps qu'on fait en gratin. Moins gaspillé, donc moins jeté, ça entraîne des économies pour la ville. Et l'idée, c'est bien de réinjecter ces économies. Ça permet d'augmenter la part de produits bio et qualitatifs.
Juste un mot rapidement sur ce reportage et puis après on parlera également du 4 heures du goûter et on essaiera de répondre à cette question. Est-ce qu'il est nécessaire, docteur?
Je réponds. Alors, ça vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils essayent de faire sur deux points. Le premier point, c'est l'histoire des portions. Ça, c'est très, très intéressant. C'est vrai qu'avoir la même portion pour un enfant de 6 ans ou 4 ans et un enfant de 12 ans, c'est idiot. Donc là, vraiment, ça, c'est bien. Puis ça permet à l'enfant d'avoir l'œil, de savoir que ça, c'est quand j'ai une petite faim. Ben, combien de fois, moi, j'apprends aux enfants en leur donnant des métaphores de ballons dans leur ventre, etc. J'ai pas faim, je mange moins. Enfin, j'ai une petite faim, je mange moins. C'est pour ça que je vous parlais des petites assiettes. Et se poser la question à la fin de la petite assiette, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je veux me resservir des pâtes? Ou alors je sais que j'ai du fromage et une glace derrière, et ben je vais m'arrêter là. Voilà, donc apprendre à savoir, d'abord qu'on n'a pas faim pareil tous les jours, ça c'est très important. Et on n'a pas faim pareil tous les jours, et on est différent d'un repas à l'autre, et d'une journée à l'autre. Donc l'équilibre alimentaire, ça ne se fait pas sur un repas. Donc les anciens trucs en disant 30 grammes de pain, 150 grammes de viande, etc., ça ne sert à rien.
Un mot à Laura Ovid sur ce sujet?
Oui, bah je rejoins tout à fait l'avis du docteur. C'est vrai que ces portions adaptées, c'est une forme d'autonomisation aussi pour les enfants. Alors, il y a toute la partie effectivement développement durable, etc., de non-gaspillage, etc. Mais c'est aussi cette autonomisation des enfants, parce que finalement, on les force à se poser la question de s'ils ont faim ou pas, de quel est leur niveau de faim. C'est une problématique que moi je rencontre très souvent en consultation avec les enfants en surpoids, c'est-à-dire qu'ils mangent plus que ce qu'ils ont besoin, mais parce qu'ils savent pas reconnaître leurs sensations alimentaires. Donc voilà, accompagnés par les animateurs, etc., on les force du coup à se questionner sur leur ressenti et effectivement à adapter leurs portions, etc.
Il y a juste 2 minutes, docteur, concernant le goûter, hein, parce que c'est un moment très important que les enfants attendent impatiemment. Est-ce qu'il est nécessaire
de goûter? Alors, bien sûr, les enfants ont besoin d'une certaine somme de calories. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas sur une journée, il se fait sur une semaine. Donc le goûter, c'est pareil. Si à la cantine, ils ont trop mangé, logiquement, ils n'ont pas faim. Trop à goûter, mais ils vont avoir faim tôt à dîner. Moi, je dis toujours que le goûter, il doit être pris vers 16h30,
pas trop tard
pour laisser la faim arriver au dîner. Les enfants qui sont gourmets et qui aiment pas ce qu'il y a à la cantine, et ben du coup ils ont très faim à 4 heures et donc ils font des goûters pantagruéliques et parce qu'ils sont tout seuls à la maison et que ce qu'on peut imaginer, c'est que les parents préparent le goûter, le mettent sur la table quand les enfants rentrent seuls, par exemple, ça pour qu'il y ait une espèce de pas forcément d'obligation à manger que ça, mais ça permet souvent à un enfant qui a très faim et qui ouvre le placard, et il va prendre le paquet, puis il va finir le paquet parce qu'il sera devant la télé, qu'il ne se rendra pas compte qu'il n'a plus faim. Donc apprendre aussi à portionner, et ça, l'école, s'ils font ça, c'est vraiment très 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 bien, parce qu'apprendre à sentir ses sensations, c'est important.
Alors les informations utiles sur mangerbouger.fr, des idées recettes pour les enfants à préparer avec eux, pour les inciter à cuisiner et prendre plaisir à préparer le repas aussi de façon ludique, et puis la fabrique à menu du site mangerbouger.fr. bouger. C'est un outil qui permet de composer des menus équilibrés avec des recettes simples. Donc, vous confirmez, docteur. Donc, n'hésitez pas, surtout. Alors, on rappelle hein, votre ouvrage, Qu'est-ce qu'on mange l'alimentation des ados de A à Z. C'est paru aux éditions Odile Jacob, docteur Dominique Cassuto. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, docteur Dominique Cassuto. Merci à vous, Laura Ovid, d'avoir pris le temps pour cette émission. Et je rappelle que l'interview qu'on écoutait tout à l'heure, c'était pas Perrine Rambeau, mais Anne Lafadaise, qui est en charge des rations pour la ville de Saint-Denis. Merci à vous, mesdames, d'être venues sur le plateau de la Radio Africaine. Et merci également à vous, chers auditeurs, pour vos questions. C'est le moment de marquer la pause pub. On se retrouve juste après.